Radio Okapi.
Le journal Pascal Massérica.
Au sommaire de cette édition, vive tension entre Wamba dans la province de Haut-Uele et Mambasa en Ituri. Des habitants des Niania ont manifesté ce week-end contre le remplacement des deux bornes marquant la limite des deux territoires. 8 ans de servitude pénale principale, c'est la peine infligée à Madame Julie Manyumba Moussomboa. Le tribunal de grande instance de Bukavu l'accusait de vol et enlèvement d'enfants. Notre invité, c'est Casimir Ngumbi Kitete. Ce professeur à l'université de Kisangani dans la Tchopo, en séjour à Kindu Maniema, parle de l'approche populaire de la résistance contre la déstabilisation permanente. Madame, messieurs, bonsoir. Sachez d'abord que le leader de l'Union pour la nation congolaise est arrivé cet après-midi à Goma en provenance de Kinshasa. À sa descente d'avion, Vital Kamerhe a été accueilli par les membres du comité fédéral de l'UNC Nord Kivu. Après un bain de foule, son cortège s'est ébranlé vers le stade Afia où il a tenu un meeting populaire. Le Nord Kivu est en effet la première étape d'une tournée qui le conduira successivement dans les provinces de l'Est de la RDC. Objectif affiché, apporter sa contribution à la résolution de la crise sécuritaire. Pendant ces temps, nous venons d'apprendre que le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge est arrivé à Mbujimayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental. Nous y reviendrons. Une vive tension a été observée samedi dernier à la limite entre les territoires de Wamba dans le Haut-Uele et celui de Mambasa en Ituri. C'est dans la localité de Niania où les habitants ont manifesté contre le remplacement des bornes marquant la limite entre les deux territoires. Ces bornes avaient été vandalisées par des habitants du territoire de Wamba estimant que l'Institut géographique du Congo avait empiété son territoire au profit de Mambasa. Les administrateurs des territoires de Wamba et de Mambasa ont échangé hier après-midi à Niania afin d'apaiser le climat de tension. Pour en parler, retrouvons à Kisangani Jacques Mukonkole.
Après l'implantation de 5 bornes par l'Institut géographique du Congo pour marquer la limite administrative entre les deux provinces, un communiqué final avait été signé entre les deux parties le 19 août dernier. Mais s'estimant lésés, les habitants du groupement Babondé ont vandalisé des bornes plus d'une semaine plus tard, comme l'explique l'administrateur policier du territoire de Mambasa, Jean-Baptiste Matandi.
Vandalisé par les compatriotes de Wamba, du groupement Babondé, et il fallait qu'on reconstruise ces bornes. Et avant toute chose, il fallait inviter l'autorité territoriale pour qu'il puisse faire part du communiqué final à sa population.
Les communautés Babondé de Wamba et Bandaka de Mambasa vivent toujours en harmonie depuis la nuit des temps, déclare l'administrateur du territoire de Wamba, Jean-Pierre Etena. Afin d'apaiser la tension entre elles, il dit apporter à sa population le message de paix et de cohabitation pacifique.
Ça fait des années, ils sont ensemble. Et ce qui a été fait par l'Institut géographique du Congo n'est qu'une limite administrative qui n'empêche pas les deux communautés de cohabiter et que la population est libre de rester là où elle veut.
Pour sa part, l'athée de Mambasa dit avoir déjà adressé le même message à ses administrés. Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Et puis les chefs coutumiers du Congo central se disent vivement préoccupés par les proportions que prend actuellement le conflit entre le peuple Teke et Yaka dans les territoires de Kwamout, province de Maïndombé. Dans une déclaration faite hier à Matadi, leurs représentants ont appelé les deux communautés à cesser leurs hostilités et à privilégier un climat de paix. À leur nom, le chef coutumier Kouloudiayona Wilo de Matadi a affirmé que la situation qui prévaut actuellement à Kwamout annihile les efforts du gouvernement central en vue de rétablir la paix à l'est du pays. À Matadi, Nana Plurich Mambou.
Venu de tous les coins du Congo central à l'invitation du gouverneur de province Guy Bandou, les représentants des autorités coutumières se sont saisis de l'opportunité pour passer en revue les nœuds du problème ainsi que les corollaires ayant engendré les conflits intercommunautaires entre les Teke et les Yaka, habitant les territoires des Kwamout. D'après ces derniers, ces conflits n'ont fait que perdurer et a causé plusieurs dégâts, tant humains que matériels. Au nom de la langue Kikongo que le Congo central partage avec les grands Bandundu, les ayants droit coutumiers du Congo central appellent leurs frères de Kwamout à enterrer la hache des guerres et à penser à l'essor de leur entité. Welokulu Diayona est l'un d'eux.
Nous voulons que chaque province se développe. Ils ne doivent pas être dans l'erreur. Les Teke et les Yaka, trouver un accord et laisser ces guerres inutiles. Voyez ce qui se passe dans l'est du pays. Le social des Congolais est mis en mal puisque le gouvernement concentre toute son énergie à y rétablir la paix. Ne cherchez pas que la même histoire se répète chez vous qui êtes nos frères avec qui nous partageons la langue Kikongo. Nous, chefs coutumiers du Congo central, disons non à ces conflits.
À l'issue de leur rencontre, ces représentants des autorités coutumières du Congo central ont levé haut la canne du pouvoir appelé traditionnellement Ngongi, synonyme selon eux du déclenchement des sirènes signalant la fin de ces hostilités entre les Teke et les Yaka. Matadi, Nana plus riche Mambou, Radio Okapi.
Autre nouvelle en plus bref, en Ituri, 40 morts dont 17 enfants et plus de 400 maisons incendiées. C'est les bilans actualisés de l'attaque survenue vendredi dernier. Attaque de miliciens de la Codeco au village de Mbijo, situé à 100 km au nord de la ville de Bounia, territoire de Djougou. Des sources concordantes affirment que la plupart des victimes sont mortes calcinées à leur domicile et d'autres ont été tuées par balles. La société civile locale déplore l'absence de l'autorité de l'État dans cette région qui est contrôlée actuellement par cette milice. Au Nord Kivu, pendant ces temps, deux bus transportant des Congolais rentrés de l'Ouganda ont été détournés de leur destination sur les sites de Rwassa dans les territoires de Rutshuru. Ils auraient été conduits le week-end dernier dans la zone occupée par les rebelles du M23. Le chef coutumier de Djumba est élu du Rutshuru, qui annonce la nouvelle, craignent pour la vie de ces personnes. Reportage.
Elles étaient environ une centaine de personnes à bord de ces deux bus qui quittaient le camp des réfugiés de Nakivale en Ouganda à destination des Rutshuru. Selon un député provincial élu de ces territoires, ses compatriotes congolais devraient rejoindre d'autres centaines de retournés cantonnés depuis environ deux semaines sur les sites de Rwassa, environ 4 km de la cité de Kiwanja en territoire des Rutshuru. Ces bus devraient passer par Kitagoma. Chemin faisant, ils auraient changé de destination et dévié vers la cité de Bunagana, zone occupée par les rebelles du M23, où ces personnes auraient été abandonnées selon la même source. Et d'après un chef coutumier de Djumba, ses compatriotes auraient été dupés par les autorités ougandaises. Ces dernières les ont confirmé que la cité de Bunagana était récupérée par l'armée et que les rebelles seraient chassés, ce qui a motivé leur volonté de retourner. Ce chef dit craindre l'enrôlement des jeunes dans le rang de ces rebelles et d'autres exactions dont seraient victimes ces retournés. Il appelle à une action urgente du gouvernement pour libérer Bunagana, qui est sous occupation des rebelles du M23 depuis environ trois mois maintenant. Signalons que des centaines de familles de déplacés ayant fui les affrontements entre l'armée et le M23 et qui restaient encore cantonnés dans le cité de Kibaya, district de Kisoro en Ouganda, ont été chassés par les forces de sécurité ougandaises il y a deux semaines, au motif avoir refusé de rejoindre le camp des réfugiés de Nyakavandi.
Au site Kivu voisin, le tribunal des grandes instances de Bukavu a condamné le week-end dernier une dame pour vol et enlèvement d'enfants. Julie Manyumba Musombwa, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, a écopé d'une peine de 8 ans de servitude pénale principale. Le jugement a été prononcé dans la cour du collège Al-Fadjiri où l'infraction avait été commise. Le compte-rendu à Bukavu de Jean Kassami.
L'affaire remonte à vendredi 9 septembre 2022 lorsqu'une dame débarque dans une église de la paroisse catholique d'Engouba où une mère de famille prie avec ses deux enfants avant de les conduire à l'école primaire du collège Al-Fadjiri. Après la prière, la mère se retire un instant pour se soulager. La kidnappeuse profite pour récupérer le sac laissé à la garde des enfants par leur maman. En plus, elle prend aussi un de deux enfants, une fillette de 8 ans, élève en troisième année primaire au collège Al-Fadjiri. Une fois dehors, l'enfant crie au secours. Les services de sécurité de l'école arrivent à maîtriser la dame. Les autorités scolaires sont alertées et les procès en flagrance débutent en début d'après-midi. Le jugement tombe dans la soirée.
En fait, comme en droit, l'infraction d'enlèvement d'enfants mis à charge de la prévenue Julie Banyumba Musombwa, alias Julienne. En conséquence, la condamne au cumul de peines, soit 8 ans de service pénal principal.
Deux autres personnes impliquées dans le même dossier sont condamnées chacun à 3 mois de servitude pénale principale par le tribunal. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Dans l'actualité, sur Radio Okapi, il y a également le Kasaï oriental où une grande partie de la ville de Mbujimayi est plongée dans le noir depuis bientôt 2 semaines. Le directeur général de l'entreprise énergie du Kasaï assure que des techniciens d'Enerka et de la société de Bakwanga Miba sont à pied d'œuvre pour réparer les machines en panne. Victor Kabongo a été joint par Esther Ndalafina.
Il y a environ 2 semaines que la production de l'énergie à la centrale de Tchala ne suit pas la demande et les besoins de la population. Il y a 48 heures, la situation s'est empirée avec l'arrêt de l'unique machine qui tournait là, le groupe L12. On est à 0 kW sur la ville, 0 machine à Tchala. Nous avons déployé les équipes mixtes NRK Miba qui sont à pied d'œuvre incessamment. On aura la première machine sur les réseaux. La deuxième machine va suivre et la troisième qui demande beaucoup de pièces à reconditionner dans des ateliers moyennant l'acquisition de pièces de rechange pourra suivre après. Il faut signaler pour la énième fois que la centrale de Tchala, c'est une centrale Miba dont les machines installées là-bas datent d'un certain âge. Il y a les machines de 1933, beaucoup de gens le savent, de 1953. D'une vieille technologie et l'acquisition des pièces de rechange, c'est vraiment difficile. Il faut commander, mais les grands problèmes, c'est le manque de moyens. Il nous faut avoir les capitaux frais pour réhabiliter complètement les machines et renouveler aussi d'autres équipements.
Dans un autre chapitre, le Nord Kivu a enregistré cette année 104 cas de décès maternels et infantiles au premier semestre, un chiffre largement supérieur aux données statistiques des 2 précédentes années. Cette situation préoccupe vivement les sages-femmes et la division provinciale de la santé publique. Cette montée des cas de mortalité est causée par les hémorragies lors de l'accouchement et la mauvaise couverture de la vaccination des enfants. C'est ce que nous explique à Beni Sadiki Aboubakar.
La Société congolaise de la pratique sage-femme au Nord Kivu rapporte qu'au seul premier semestre de l'année en cours, au moins 104 cas de décès maternels ont été enregistrés en province, aux côtés des 199 en 2021 et 192 en 2020. Vakio Kelosson, président, affirme que des complications dues aux hémorragies sont les principales causes de cette situation. Il ajoute que l'insécurité et le manque d'accès facile aux structures de santé dans plusieurs coins de la province sont également pris en compte. Le médecin chef de la division provinciale de la santé au Nord Kivu reconnaît ces faits, tout en rassurant l'implication du gouvernement et ses partenaires en vue d'améliorer la situation. Docteur Janvier Kubuya invite les femmes enceintes au respect de la consultation prénatale.
En amont, la dame, elle est obligée, elle n'a pas de choix d'aller consulter ses services de consultation prénatale. Facilement, on peut identifier des facteurs qui peuvent avoir un impact négatif sur le développement de l'enfant ou sur la femme enceinte. Pour autant soit peu réduire le décès des enfants, il y a des interventions à haut impact, notamment la vaccination.
Signalons que certains hôpitaux du pays bénéficient déjà du programme d'accès gratuit aux soins pour les femmes enceintes et les nouveaux-nés. Beni, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Tchad, le procureur de la République a annoncé qu'il suspendait jusqu'à nouvel ordre la convocation aujourd'hui lundi de l'opposant Success Masra. Cette annonce est faite aujourd'hui alors que 2 syndicats de magistrats ont lancé un appel à la grève générale pour demain mardi. Cette grogne des magistrats est motivée par des revendications professionnelles. L'armée ukrainienne a revendiqué ce lundi après-midi la prise de 500 km² des territoires aux forces russes en l'espace de 2 semaines de contre-offensive au sud de la région de Kherson. Il s'agit d'une première estimation chiffrée des gains ukrainiens. Le porte-parole militaire pour les Suds a affirmé que leurs succès des deux dernières semaines sont assez convaincants.
L'invité.
Notre invité, c'est Casimir Ngoumbi Kitete, ce professeur à l'université de Kisangani dans la province de la Tchopo, en séjour à Kindu au Maniema, parlait de l'approche populaire de la résistance contre la déstabilisation permanente. Il s'entretient avec Florence Kizalunga.
Professeur Casimir Ngoumbi, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de parler de l'approche populaire de la résistance en RDC contre sa déstabilisation permanente. Quel est l'intérêt de ces thèmes en cette période?
Oui, c'est la sensibilisation, mais en même temps aussi la socialisation des étudiants, mais aussi de la société civile, pour que chacun d'eux comprenne par rapport aux enjeux actuels que les Congolais doivent être unis, mais en même temps la société civile doit travailler de concert avec la société politique, les dirigeants, pour obtenir quand même des approches qui permettent aux citoyens congolais de se mettre debout, de s'élever et en même temps de leur demander, certes, de résister par rapport à ce qui vient de l'extérieur, mais en même temps résister par rapport à la médiocrité des acteurs politiques qui ne veulent pas comprendre du tout que pour le temps actuel, il faut qu'ils se mettent ensemble. Donc résister par rapport à toutes les difficultés, toutes les déviations observées au niveau de la gestion du pays, mais en même temps résister par rapport aux questions qui se présentent à l'Est, notamment l'agression dont nous sommes l'objet dans un premier temps, mais aussi demander à ceux qui pratiquement dévient de temps en temps par rapport à l'utilisation des aspects comme ceux qu'on a condamnés dernièrement, la discrimination. Nous avons demandé vraiment de le faire tout en respectant la loi et pour ne pas être en dehors de ce que nous devions faire en tant que Congolais, même si on est agressé, mais quand même, nous devons faire montre de notre capacité d'hospitalité et éviter toutes les déviations possibles. La socialisation étant interactive, donc l'individu est appelé en même temps d'être socialisé et d'être socialisateur pour que nous puissions prendre conscience de ce qui nous arrive demain ou après-demain.
Pensez-vous que les Congolais ne sont pas résistants?
Non, pas du tout. Pas du tout. Vous savez, quand on chante le début congolais, nous disons, nous avons longtemps courbé nos fronts. Effectivement, des acteurs politiques à la société civile, même aux jeunes, sont distraits. Et cette distraction qui inquiète, et nous risquons d'être surpris un jour que le pays est sous contrôle ennemi, et d'ailleurs il l'est déjà, quand on voit ce qui se passe à Bounagana, à Rutshuru, tout ça, c'est comme si, pour l'instant, les fronts de FRDC restent courbés, quelque part, qu'est-ce que je peux dire? Mais le président, il est là, est-ce qu'il regarde, il regarde pas, est-ce que les fronts c'est pas courbé aussi, pour éviter que cette situation ne perdure? Et donc il faut éveiller les uns les autres, leur demander de ne pas continuer à rester dans la distraction, parce que les temps sont mauvais.
Alors professeur, quelle attitude que la communauté congolaise doit-elle adopter pour que nous soyons résistants?
Oui, identifier partout ceux qui naviguent à contre-courant dans les rangs des FRDC, au niveau de la police, surtout les politiciens. Les politiciens. Vous savez, c'est vrai qu'on peut reprocher aux acteurs politiques au niveau du gouvernement, de l'Assemblée nationale, au Parlement, le président de la République, c'est vrai. Mais ceux de nos frères, acteurs politiques qui entretiennent les milices, comment on peut comprendre quelque chose dans ce sens-là, maman? Mais aussi les opérateurs économiques qui complotent et qui tirent des dividendes parce qu'il faut voir les gens mourir. Parce qu'après tout, on va gagner l'argent. C'est pas normal. J'ai comme l'impression que les Congolais sont distraits et qu'il faut à tout moment qu'ils se réveillent et qu'ensemble nous tenions la main dans la main pour bouter l'ennemi dehors et penser se développer un jour, penser arrêter des projets, penser avoir des ambitions, penser avoir des rêves, pourquoi pas.
Avec ce genre de déclarations, professeur Casimir, avez-vous des preuves?
Oui, sans que je puisse citer le nom des uns et des autres. Il y a des véhicules entiers qui viennent de l'étranger et qui font entrer des effets militaires à l'est de la RDC. J'ai beaucoup d'informations ramassées sur le terrain. Je vous dis, maman Florence, c'est pitoyable. Vous avez des opposants, même quand ils crient tout haut, certains, ils n'ont pas totalement tort, qui pratiquement assistent, n'est-ce pas, à cette impunité. Il faut que les populations se réveillent pour les identifier et pour les mettre hors d'état de nuire pour que nous puissions vivre dans la paix. Moi, je crois qu'il y a lieu de s'arrêter un peu, de dénoncer tous ces messieurs-là.
Vous pensez qu'il y a un pays, grâce à sa résistance, a obtenu gain de cause?
Oui, il y en a plusieurs. J'ai parlé de la Hongrie qui a résisté contre l'Autriche et même les acteurs politiques. Les populations se sont mises ensemble, ils ont bouté l'ennemi dehors et l'occupation autrichienne a été boutée dehors. Gandhi l'a fait aux États-Unis et Martin Luther King. Et donc, ce n'est pas impossible et les Congolais sont capables de le faire. Nous allons résister, mais sans oublier que nous ne pouvons résister que dans le cadre du respect de la loi et du respect des droits humains pour ne pas verser dans la xénophobie, verser dans ce qui pourrait plus tard être condamnable et comme ça nous allons échouer.
Professeur Casimir Ngoumbi, je vous dis merci.
C'est moi qui vous dis merci, maman Florence.
C'était l'invité de Radio Okapi, Casimir Ngoumbi, qui était professeur à l'université de Kisangani dans la province de la Tchopo, qui séjourne présentement à Kindu Maniema et qui parlait de l'approche populaire de la résistance contre la déstabilisation permanente. Il a été interviewé à Kindu par Florence Kizalunga. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Radio Okapi. Merci d'avoir écouté. À Kinshasa, il est 18h20.